Bonjour, excusez-moi, je fais ma petite cuisine. C'est quoi la foi des chrétiens? Est-ce que vous pouvez me donner une définition de la foi des chrétiens? Confiance en Dieu, oui. Quelque chose qui soit à la fois bref et complet. Une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, oui. J'ai pas entendu la fin. L'espérance, ça me plaît beaucoup. Paul va donner une définition de la foi des Thessaloniciens. On trouve ça dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 9. Alors, je suis désolé, aujourd'hui, je vais un peu vous assaisonner de textes. Alors, vous serez un peu dispensé de tous les chercher. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On raconte donc comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Dans cette définition, j'aimerais surtout retenir cette partie pour attendre des cieux son Fils. Et je ne me suis pas du tout concerté avec Marc sur le thème d'aujourd'hui, mais je vais vous parler du retour de Jésus-Christ. Je salue aussi au passage Jean. Je pensais que tu serais là aujourd'hui. Effectivement, je me rappelle que la dernière fois que tu étais là, tu nous avais parlé du retour de Jésus-Christ. Nous n'attendons pas quelque chose, nous attendons quelqu'un. Depuis l'ascension, nous attendons le retour de Jésus. Vous savez, à l'ascension, acte 1, verset 1, facile à trouver, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et pourquoi est-ce que nous l'attendons? Ben oui, c'est une bonne question. Parce qu'il a dit qu'il allait revenir?
Oui, il nous a dit à bientôt.
Oui, il nous a dit à bientôt, oui. Mais nous l'attendons surtout parce qu'il est notre espérance. C'est ce que Paul dit dans l'épître à Timothée, c'est aussi le premier verset de l'épître, la première épître à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance. J'aime bien le mot espérance. Et Ginette, qui est du Midi, elle sait que le mot espérance, dans le Midi de la France, c'est presque un synonyme, espérer c'est presque un synonyme d'attendre. Espère un peu, tu vas voir la correction que tu vas avoir. Attendre, dans le Midi de la France, et espérer, ces deux mots qui sont presque synonymes. C'est un peu dans ce sens-là que Jésus-Christ est notre espérance. Il est l'espérance des chrétiens. Parce que, comme Paul le dit aux Romains, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Pour l'instant, ça ne se voit pas. Quelle est la différence entre les gens sauvés et ceux qui ne les sont pas? Pour l'instant, ce n'est pas très visible. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et Paul, toujours, va dire aux Thessaloniciens, il en parle un peu à tout le monde, hein, alors pourquoi pas à nous? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Et à quoi est-ce qu'il va rattacher cette espérance? Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et la suite du texte nous rappelle le texte que nous a lu Marc ce matin. Voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Très probablement, Paul avait lu l'évangile de Matthieu. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Que dit Paul ? Les autres n'ont pas d'espérance. Vous, vous en avez une ? C'est que vos bien-aimés revivront et ils le reviront au moment où Jésus-Christ reviendra. Cette concentration de l'espérance en une seule personne, c'est un phénomène unique dans le christianisme. Tout est centré sur une personne, non pas simplement sur son enseignement. Vous enlevez Confucius, il reste son enseignement. Finalement, vous ne changez pas grand-chose à ceux qui croient en Confucius. Mais vous enlevez Jésus, ce n'est pas ce que Jésus a dit qui est important. Bien sûr que c'est important, mais c'est ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Ce qui caractérise la foi des chrétiens, c'est l'espérance en un avenir, mais surtout en une personne qui va revenir en chair et en os, même si ce corps, entre-temps, a été glorifié. Et l'apôtre Pierre dit, soyez prêts à vous défendre contre quiconque vous demande des comptes sur votre espérance. Même le Coran parle de l'espérance dans le retour de Jésus. Il dit que c'est le signe de l'heure que le retour de Issa, c'est Jésus dans le Coran, qui doit revenir. Si vous ne croyez pas, c'est dans la sourate 43 qui s'appelle l'ornement au verset 61. Aujourd'hui, j'aimerais simplement évoquer quelques mots que le Nouveau Testament emploie pour le retour de Christ et ce que ces mots signifient. Alors, pour faire plaisir à Laure, j'ai préparé un transparent, mais Laure n'est pas là. Mais vous lui direz, hein ? Alors, les gens de ma génération ont souvent lu un bouquin écrit par René Pache, hein, qui s'appelait « Le retour de Jésus-Christ ». Et assez curieusement, le mot « retour » de Jésus-Christ n'est pas utilisé dans la Bible, même si c'était le titre de son livre. Mais l'idée de retour est bien présente, même si le mot n'est pas employé. Alors, ce qui se rapproche de ce mot, on trouve ça dans Jean 14. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Il dit ça à ses disciples. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et grammaticalement, c'est « je viendrai de nouveau » et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Je viendrai de nouveau. Voilà la construction qui se rapproche le plus du mot « retour ». Mais il y a un mot qui est très employé dans le Nouveau Testament, qui est le mot « parousie ». Au point qu'il y a même des traducteurs qui n'ont pas voulu le traduire, qui n'ont pas trouvé de mots français pour aller avec, alors ils l'ont laissé tel quel. Ils ont mis parousie. Vous avez des traductions de la Bible où le mot parousie est toujours employé. Qu'est-ce que ça veut dire parousie ? La parousie de Jésus-Christ. Ben, le premier sens, le plus simple, c'est présence. On pourrait dire aussi essence. Le mot parousie, c'est un mot qui vient du verbe être en grec. La parousie, c'est quand quelqu'un est présent, et la Bible souligne que Jésus, actuellement, est absent. Il est parti, il n'est pas là. Il est là en esprit, mais corporellement, il n'est pas là. Si vous voulez réfléchir sur ce texte, sur ce thème, vous pourrez voir ce que Paul en dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, où il parle de son corps, à lui, et il dit que il est mal à l'aise dans son corps, il est probablement malade, et qu'il aimerait mieux quitter son corps, mourir, pour rejoindre le Christ. Et il souligne ici que le Christ n'est pas présent. Donc la parousie, c'est la présence d'une personne. Et le Nouveau Testament emploie ce mot pour des tas de gens, pas que pour Jésus. Paul dit « Je me suis réjoui de la présence, mot parousie, de Stéphanas, de Fortunatus et d'Archaïcus. Ils ont suppléé à votre absence. » Mais il y a un sens dérivé qui signifie la venue. Quand quelqu'un est absent et puis qu'il est présent, ben c'est qu'il arrive. Ça semble assez logique. Et on employait volontiers cette expression pour les grands de ce monde, pour les rois. Pour les rois qui rendaient visite à une ville. Et on disait, ben voilà, c'est la parousie de tel roi. Et on allait à sa rencontre. Ah, on entendait dire qu'il allait arriver, on allait à sa rencontre. Exactement ce qui s'est passé le jour des rameaux. Le jour des rameaux, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont entendu que Jésus arrivait. Alors ils sont sortis de la ville et ils sont allés à sa rencontre. Ils ont reproduit ce qu'on faisait pour les grands de ce monde quand ils avaient une parousie, c'est-à-dire une arrivée dans une ville, et qu'on voulait les fêter, fêter l'arrivée d'un roi conquérant. C'était la venue royale. Ils l'ont hélas reconnu assez provisoirement comme roi, puisque quelques jours après, ils ne voulaient plus de lui comme roi. Et maintenant, nous attendons, nous, l'arrivée, l'entrée de notre roi Jésus, qui est loin pour le moment, mais qui va venir. Et ceci explique l'image que l'on trouve dans le Nouveau Testament, que nous allons à la rencontre de Jésus. On trouve ça dans la première épître aux Thessaloniciens. Nous, les vivants qui sont restés vivants, nous serons enlevés ensemble avec les morts ressuscités dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous vous rendez compte ? Je me sens déjà des ailes qui poussent. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, certains ont compris que Jésus faisait que la moitié du chemin, qu'on allait à sa rencontre et puis on repartait avec lui dans le ciel. Mais ce n'est pas l'idée de la parousie. La parousie, c'est qu'on l'accompagne pour la fin du voyage. On va à sa rencontre, certes. Je pense qu'il fera plus que la moitié du chemin avant qu'on le rejoigne. Et c'est surtout qu'on l'escorte pour la dernière centaine de mètres, peut-être, en lui faisant fête. Alors, parousie, ça a été traduit en latin adventus, et ça a donné le français avènement. Et aussi, dans certaines Bibles, il y a le mot avènement, et le texte que nous a lu ce matin Marc, Matthieu 24, la question des disciples, dans certaines traductions, c'est « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement ?» et de la fin du monde. Et Jésus répond, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. On pourrait mettre la parousie. Voilà. Paul, qui avait fondé au cours de ses voyages beaucoup d'églises considérait que chacune de ces églises était sa fierté. Et il dit aux Thessaloniciens, « Qui est en effet notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ?» Chacun d'entre nous, si nous avons eu la satisfaction, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais de parler du Seigneur à quelqu'un et de savoir que cette personne s'est tournée vers le Seigneur. On ne le sait pas toujours, parce que les personnes, parfois, il faut des mois et des années, et puis plusieurs contacts avec différentes personnes. Ce sera notre couronne de gloire devant le Seigneur. Et toujours aux Thessaloniciens, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé sans tache lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors, il y a un autre terme, le jour. Le jour, le jour du Seigneur, le jour de Jésus-Christ, mais aussi le jour tout court. Il y a toutes les variantes. Paul dit aux Corinthiens que Dieu vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons ce jour. Alors, d'où vient cette expression ? Elle vient de l'Ancien Testament. Beaucoup de prophètes parlent du jour de l'Éternel. Ésaïe, Joël, Amos, tous le décrivent comme un jour de puissance où Dieu exercera sa justice. Justice bienfaisante pour les hommes droits, justice terrible pour ceux qui sont infidèles à Dieu. Et Marc a souligné tout à l'heure que, curieusement, lorsqu'il est question du retour de Jésus-Christ dans le texte de Matthieu 24, curieusement, il y a toutes les nations se lamenteront. On pourrait penser, les gens se réjouiront. Et pourquoi est-ce qu'ils se lamentent ? Et Marc a souligné qu'ils se lamentaient effectivement parce qu'ils voient arriver le jugement exercé par celui qu'ils ont méprisé et qu'ils ont rejeté. Mais il y a un côté positif. Ésaïe 25 dit il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Pour ceux qui l'attendent, ce jour sera un jour de joie. Et puis Joël prévient, pas Joël Imbert, hein. D'ailleurs il vous salue tous, hein. Il est en cure thermale avec sa maman en ce moment et il vous salue tous. Non, mais c'est le Joël, le prophète de la Bible, qui nous dit que le jour de l'Éternel vient, il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Terrible. Terrible pour son peuple, car au moment où Joël écrit, le peuple a oublié son Dieu. Et le Nouveau Testament a précisé que le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, c'était le jour du Seigneur Jésus. C'est lui le Seigneur venu dans la chair. Jésus lui-même le dit en citant le prophète Ésaïe. Vous savez, quand il est dans la synagogue et qu'il lit le prophète Ésaïe, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la vérité, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Et il s'arrête là. Et le texte d'Ésaïe continue, et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus s'arrête là parce que sa mission de ce moment-là, c'était de publier le temps de la grâce. Et puis la mission d'après, ça sera le jugement. Nous manquons souvent, nous protestants, le lien entre le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Et je me souviens d'avoir lu des opuscules qui faisaient des différences en disant le jour de l'Éternel c'est ça, et le jour du Seigneur c'est autre chose. Mais pas du tout, c'est la même chose, c'est le même jour. On oublie simplement que quand nous lisons dans nos Bibles, dans notre Ancien Testament, jour de l'Éternel, un bon juif, lui, il lisait jour du Seigneur, parce que le mot éternel, il n'osait pas le prononcer. Alors il disait Adonai à la place, c'est-à-dire Seigneur. Et quand on a traduit la Bible en grec, on a mis jour du Seigneur. Mais nos Bibles à nous traduisent en général éternel. C'est plus simple quand on lit une Bible catholique, enfin une traduction catholique, parce que en général, eux, on traduit jour du Seigneur. Alors, on voit tout de suite que c'est la même chose dont on parle. C'est une affirmation très forte de la divinité de Jésus, car c'est lui qui va accomplir tout ce que les prophéties avaient annoncé comme étant l'action de l'Éternel ce jour-là. Notamment en ce qui concerne le jugement. Joël 3 dit « Voici des foules et des foules dans la vallée du verdict. » C'est bien un jugement, ça. « Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du verdict. » Dieu va juger son peuple. Et comment est-ce que Jésus voit ça? C'est la suite de ce que Marc nous a lu ce matin. Il nous a lu Matthieu 24. Matthieu 25 dit « Lorsque le Fils de l'homme, Jésus, viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Le jugement dernier, c'est lui qui juge. Le jour du Seigneur, c'est le jour qui appartient à Dieu. C'est le jour où il manifeste sa souveraine volonté après des temps de patience et d'apparente liberté des hommes. C'est le jour qui va dévoiler que le Seigneur Jésus est vraiment celui qui règne, conformément à la volonté de Dieu. Philippiens 2 dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et ce thème du jour, qui va lever toutes les brumes, qui va chasser toutes les ténèbres, est exploité par Paul pour nous encourager à une conduite droite. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Ne marchez donc point dans la lumière. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes du jour. Nous n'avons rien à voir avec les ténèbres. C'est d'ailleurs assez curieux de voir tout ce qui se trame la nuit. Les boîtes de nuit, minuit, l'heure du crime. C'est marrant quand même, comme si on ne pouvait pas faire des crimes le jour. Alors, voilà. Alors, pour ceux qui commencent à s'endormir, on en est là. Vous voyez, on a déjà bien prenant, hein ? On a déjà bien avancé. Alors, un mot curieux pour le retour de Jésus. Le mot épiphanie, ça vous rappelle quelque chose, l'épiphanie? La galette des rois, oui. Et pourquoi les rois? Et pourquoi est-ce qu'on appelle la fête des rois, si on peut dire. Enfin bon, les mages, quoi. Je vous rappelle que la Bible ne parle pas de rois. Hein. Elle ne dit pas non plus qu'ils étaient trois. Elle dit que c'était des mages. Bon, si ça se trouve, ils étaient quatre. Enfin, ils ont trois cadeaux. C'est peut-être pour ça qu'on a pensé qu'ils étaient trois. Et puis des beaux cadeaux quand même. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a pensé qu'ils étaient rois. Mais enfin, la Bible ne le dit pas. Et pourquoi est-ce qu'on emploie le mot épiphanie qui veut dire apparition brillante ? À cause de l'étoile. Voilà. C'est un peu une façon bizarre de désigner ce jour, mais à cause de l'étoile qui les a guidés jusqu'à Bethléem. La signification ici, c'est resplendissement, déploiement de gloire, apparition brillante, lumineuse. Paul dit à Timothée, je t'adjure, je te conseille fortement, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son épiphanie, de son retour et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et il lui dira un peu plus loin, pour lui, il sent qu'il est proche de son décès, il dit qu'il va mourir bientôt, mais que désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son retour ou son épiphanie. Tous ceux qui auront aimé son apparition glorieuse. Est-ce que nous aimons l'idée que le Seigneur va revenir, que ce sera quelque chose de merveilleux ? De merveilleux pour nous. Il paraît, c'est ma fille qui m'a dit, que Marc, un jour où j'étais pas là, a dit qu'il aimait mieux, qu'il préférait que le Seigneur arrive rapidement, même si c'était avant son mariage. Hein, c'est bien ça, je déforme pas tes propos. Hein, c'est à Martine aussi. C'est vous dire combien ils aiment l'avènement de Jésus, au point même de lui donner la priorité par rapport à leur mariage. Voilà, donc, la couronne de justice t'est réservée, Marc, puisque tu fais partie de ceux qui aiment l'apparition, l'avènement de Jésus-Christ, l'épiphanie de Jésus-Christ. Évidemment, ce terme insiste sur l'aspect glorieux, brillant, éclatant de la venue de Jésus-Christ. Et Matthieu, que nous a lu Marc, excusez-moi, je parle beaucoup de Marc, mais Matthieu 24, que nous a lu Marc, n'emploie pas ce mot d'épiphanie, mais vous avez remarqué que, par contre, il le décrit comme l'éclair part de l'Orient et va jusqu'en Occident. C'est bien brillant, ça, quand même, hein. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et il viendra sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Même s'il n'emploie pas le mot, il décrit la chose de cette façon-là. Et un dernier terme, le mot apocalypse. Apocalypse qui signifie dévoilement, révélation. Ce que nous attendons, c'est la levée du voile qui cache actuellement la gloire et la présence de notre Seigneur. J'avais été beaucoup frappé lorsqu'on avait étudié avec le groupe de maison l'Apocalypse, de voir que ça commence comme ça, l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ. Et c'est parce que ça commence comme ça qu'on l'appelle l'Apocalypse, parce qu'en grec, ça se dit Apocalypse. Et Pierre emploie aussi ce mot, ou plus exactement le verbe qui va avec ce mot, en disant « C'est pourquoi, Saignez les reins de votre entendement. C'est un peu compliqué, hein, mais... Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra ou se dévoilera. Et si vous souffrez, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, certains commentateurs ont été étonnés de voir qu'il y avait plusieurs mots pour parler du retour de Jésus. Et comme il y a plusieurs mots, ils se sont dit, mais c'est que ça ne doit pas être aussi simple que ça. Il ne doit pas revenir une fois et puis c'est tout. Il doit revenir en plusieurs fois. Il doit revenir, repartir, revenir. Je pense que on a tous un peu lu des textes comme ça ou des études sur les temps futurs qui sont un petit peu... Moi, j'ai l'impression que ça complique beaucoup les choses. Alors, je ne vais pas vous le lire parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais si vous lisez la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, qui commence comme ça, au verset 6, « Il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus se révélera, Apocalypse, du ciel avec ses anges puissants. » Un peu plus loin, verset 10, « Il viendra, tout simplement le verbe venir, pour être ce jour-là glorifié dans ses saints. » Un petit peu plus loin, chapitre 2, « Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement, la parousie du Seigneur Jésus, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques paroles qui vous diraient que le jour du Seigneur est déjà là. » Donc, voyez, déjà, on a Apocalypse, venir, parousie, jour du Seigneur. Tout ça pour le même moment. Hein. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Là aussi, ça reprend le texte dont Marc nous a parlé ce matin. Et il est question ensuite d'un homme qui va se dresser en face de Dieu et qui va être l'impie, celui qui d'autres textes ont appelé l'Antichrist. Et au verset 8, la conclusion de cela, « Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il écrasera par l'éclat, épiphanie, de son avènement, parousie. » Donc, vous voyez qu'il est absolument impossible de séparer et de dire, « Ah ben ça, il vient une première fois, c'est la parousie, mais il repart, puis il revient ensuite 3 ans et demi ou 7 ans après, je vous fais grâce de toutes les interprétations possibles. Et ça, c'est le jour du Seigneur. » Un seul événement sera celui du retour de notre Seigneur. Et nous avons donc décrit quelques facettes de ce retour de Christ au moyen des mots employés par la Bible. Alors, peut-être d'autres fois, on essaiera d'en préciser un peu le déroulement dans d'autres études. En attendant, savourons. Savourons le retour de Christ comme une profonde et joyeuse espérance. Et je voudrais terminer avec cette lecture de la première épître aux Thessaloniciens, que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints.